Salut à toutes et à tous, au sommaire de cette émission, nous aurons Saint Dragon, El Viento, Battle Arena Toshinden, Pandemonium, Super Mario 64, Diet Gogo, et nous terminerons avec un dossier sur la Lynx. Bienvenue sur Rétrovision. Saint Dragon, aussi connu sous le nom de Tenseiryu Saint Dragon, est un shooter horizontal développé par NMK et commercialisé par Jaleco en 1989 sur arcade. Il a été adapté sur de nombreuses machines de l'époque, dont celle-ci, sortie un an plus tard sur Atari ST. Et c'est le studio britannique Random Access qui a réalisé une conversion sur micro-ordinateur et The Sales Curve a édité cette version. D'ailleurs, la jaquette avait pour titre ST Dragon, ce qui pouvait porter à confusion. Vous contrôlez un dragon mécanique à travers 5 niveaux, contre 6 sur PC Engine et Arcade, à la difficulté assez élevée, car vous serez attaqué de tous les côtés par des ennemis en surnombre, ne vous laissant aucun moment de répit. Il va donc falloir se frayer un chemin parmi ce capharnaüm, tout en évitant les tirs adverses, car même si ces derniers arrivent assez lentement, vous risquez le plus souvent d'entrer en collision avec un ennemi judicieusement placé pour vous empêcher d'avancer. Et pour certains d'entre eux, il va falloir leur tirer une bonne dizaine de fois avant de les détruire. La version PC Engine est un peu plus jolie graphiquement et bénéficie d'une animation beaucoup plus fluide que sur Atari ST. Cependant, il est tout aussi difficile et vous demandera de connaître les placements par cœur. Le gameplay se limite au strict minimum puisque vous n'avez qu'un seul bouton d'action, ce qui veut dire que les smart bombs, on peut se les cloquer dans le baba, surtout qu'on en aurait bien besoin lors de certains passages serrés. A noter que seule la tête du dragon est vulnérable et explosera au moindre impact, même avec le décor. Le corps du dragon, lui, est indestructible et vous permettra de bloquer certains projectiles. Saint Dragon est un titre qui joue la carte de la vieille école. Malheureusement, il en rebutera plus d'un de par sa difficulté, sa lenteur et son manque de profondeur au niveau du gameplay. El Viento est le premier opus d'une trilogie développée par Wolf Team sur les consoles 16 bits de Sega. Ce jeu à l'ambiance bien particulière prend place dans les USA de la fin des années 20 en pleine période de la prohibition et de la mafia pour y ajouter une grosse couche d'ésotérisme. La jeune Annette Meyer doit arrêter une secte qui tente de faire renaître le démon Astur pour éradiquer l'espèce humaine et purifier ce monde décadent. La secte étant directement en affaire avec la mafia, Annette devra donc en découdre avec Al Capone et ses sbires. Ce dernier étant étrangement renommé Vicente De Marco dans la version nord-américaine. Pour cela, notre héroïne sillonnera les États-Unis de Chicago à New York en passant par le mont Rushmore, le Grand Canyon et les usines automobiles de Détroit. Elle pourra se débarrasser de ses adversaires en utilisant un duo de boomerang, mais également en utilisant ses pouvoirs magiques. Commençant avec une simple boule de feu, vous récupérerez tout au long de votre périple de nouveaux pouvoirs que vous utiliserez en chargeant votre magie. Le soft se déroule comme un jeu de plateforme basique, chacun des 8 niveaux étant entrecoupé de scénettes faisant avancer le scénario et où vous rencontrerez les divers protagonistes de l'histoire, dont Rastiana, la rivale d'Annette, et surtout Ernest Evans, qui sera le personnage central du deuxième opus de cette trilogie. Techniquement, le jeu est plutôt pauvre. Les graphismes sont assez grossiers et les programmeurs ont eu le mauvais goût d'inclure des effets à coups de gros pixels immondes. L'animation est rapide mais ralentit fatalement dès que l'écran se charge de sprites. La maniabilité, si elle est globalement bonne dans l'ensemble, se montre parfois capricieuse dans la gestion des sauts. La bande-son, quant à elle, est sympathique, mais pas franchement mémorable. Mais le point qui a fait le plus grincer des dents dans El Viento est sa difficulté. Contrairement à beaucoup d'autres jeux, Unet ne dispose pas d'une invincibilité temporaire lorsqu'elle se fait toucher par un ennemi, ce qui complique déjà bien la tâche du joueur. Alors imaginez le dernier niveau où vous devrez faire face à une horde d'ennemis volants, vous fonçant dessus pour ne plus vous lâcher et vous vous rendrez compte que la crise de nerfs n'est pas bien loin. Et le fait que la quantité d'énergie et de magie de notre héroïne augmente à chaque stage n'y changera malheureusement pas grand-chose. El Viento est donc un titre qui partait sur de bonnes bases, mais qui se retrouve plombé à cause d'une réalisation trop légère et d'une difficulté hors de toute logique. Les plus curieux ou les acharnés s'y frotteront probablement, les autres préféreront se tourner vers des valeurs sûres. Il y a des choses que nous pensons impossibles, comme adapter les jeux d'une bête de course comme la Neo Geo sur une machine aux capacités très restreintes comme la Game Boy. Et pourtant, Takara y est arrivé à notre plus grand étonnement, et ce, plusieurs fois de suite. Mais après avoir adapté des sagas comme Samurai Showdown, Fatal Fury et World Heroes, il était temps pour l'éditeur d'adapter sa franchise maison Battle Arena Toshinden. On pourrait penser qu'adapter un jeu de baston 3D sur la portable monochrome serait plus difficile. Eh bien non, il a suffi à l'éditeur d'appliquer la même recette que pour ses précédentes adaptations. Ainsi, le cast de la version originale est au complet, avec l'intégralité de leurs coups spéciaux en prime, ainsi que leurs décors et musique. Bien que le jeu soit passé en 2D, et si l'on a perdu la possibilité de tourner autour de son adversaire, il est possible d'esquiver les attaques adverses. Le principe de l'arène et ses limites a quant à lui été conservé. Vous aurez aussi l'occasion de frôler trois fois les limites de l'arène avant de tomber. Ce nombre est bien évidemment paramétrable dans les options, où vous pourrez également personnaliser une quantité non négligeable de paramètres tels que la difficulté, le temps, le niveau d'énergie, le nombre de rondes gagnantes, ainsi qu'écouter les musiques et bruitages. La réalisation globale du jeu est excellente. Les graphismes sont fins et lisibles, même avec des décors parfois fouillés. L'animation est rapide, ne ralentit jamais et on ne remarquera aucun clignotement de sprite. Le processeur sonore de la Game Boy arrive à restituer assez fidèlement les thèmes musicaux du jeu original. Les bruitages sont certes un peu brouillons, mais dans la droite lignée de ce que l'on a l'habitude d'entendre sur cette machine. Le seul point assez tendancieux serait la maniabilité. Pas mauvaise dans l'ensemble, il semble toutefois que certains coups, basiques ou spéciaux, soient réticents à vouloir sortir, ce qui est un peu gênant lors de certains corps à corps critiques. Malgré ce dernier point, Toshinden est donc une nouvelle conversion de haut vol pour Takara. Bénéficiant des avantages du Super Game Boy, les amateurs de baston sur la Nomad première génération de Nintendo pourront également en profiter sur grand écran, seul ou à deux. Nous voici sur PlayStation dans un jeu qui fut à son époque assez intrigant. Pandemonium, sorti en 1996 par Crystal Dynamics, est un jeu de plateforme en 2,5D. Oui, oui, là où en 1996, tout poussait vers la 3D. Ce jeu, en plus de son côté avant-gardiste, est vraiment excellent. Pour la petite histoire, Fergus et Nikki, les apprentis magiciens, vont réveiller un énorme monstre avec un livre de sorcellerie nommé Yongo, venant tout droit d'une autre dimension et qui va avaler une ville tout entière sous leurs yeux. Ils vont donc devoir remettre les choses en ordre. Après avoir choisi votre personnage, Mickey peut effectuer des doubles sauts bien pratiques, car nous sommes tout de même dans un jeu de plateforme, et Fargus peut détruire les monstres en faisant des roues. D'une manière générale, le personnage le plus adapté pour commencer est Mickey. Bref, nous voici enfin dans le jeu. Alors tout d'abord, ce qui frappe, ce sont les effets de caméra qui sont très fluides. Certes, les personnages ne se déplacent que sur un plan, néanmoins, la caméra reste parfaitement adaptée à toutes les actions. Le jeu se divise en 19 niveaux, ce qui vous permettra de traverser pas mal de décors tout simplement fabuleux. Et bien sûr, vous aurez tout plein de boss à éliminer. Le jeu met à profit cette particularité, en l'occurrence la 2,5D, pour faire des ingénieux passages et même pour les boss où tout est basé sur cette 2,5D. Absolument magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Au niveau du maniement, rien à dire. Les personnages répondent bien et on ne déplore aucun accroc. Quant à l'animation, on a deux ou trois ralentissements, mais vraiment rien de très méchant. D'ailleurs, ils sont à peine perceptibles. Il fallait bien quand même trouver un point noir. Les musiques collent parfaitement à l'action et restent tout à fait supportables, contrairement à beaucoup d'autres jeux de plateforme où l'on devient carrément dingue à force de les entendre. Les graphismes, même s'ils ne sont pas extraordinaires, remplissent parfaitement leur fonction en nous faisant voyager dans un monde magique et coloré. Autre petit plus, il permet de noter des mots de passe pour éviter de recommencer tout au début à chaque partie. Alors, vous me direz, pourquoi pas les sauvegardes? Eh bien, tout simplement car les cartes mémoire de la PlayStation étaient assez chères à l'époque et parfois même en rupture. Nul doute que ce jeu est un véritable hit. Et en plus d'avoir su faire preuve d'innovation dans un monde qui commençait à se tourner uniquement vers la 3D, il a su nous montrer qu'une autre voie allait s'ouvrir, celle de la 2.5D. Un grand merci à Crystal Dynamics.
It's me, Mario.
Alors voilà, il est assez rare de chroniquer un blockbuster, titre à grand succès, mais là c'est un peu un hommage anniversaire car Mario 64 est sorti le 1er septembre 1997 et Julien F. a pu y jouer pour la première fois au mois d'octobre 1997. Alors nous allons essayer de présenter ce jeu avec le plus de neutralité possible, comme si nous le questions à sa sortie. Julien étant un fan des autres Mario, toutes plateformes confondues, enfin Nintendo on s'entend bien, hein, on ne parle pas des jeux PC ni CDI, et la première chose qui choque dès que l'on allume sa Nintendo 64 avec le nouveau Mario, c'est qu'il parle. Et oui, dorénavant on peut mettre une voix sur le personnage. Son visage nous apparaît en 3D, sur lequel on peut lui étirer la casquette et son visage. Un petit gadget technologique en quelque sorte. Bizarre de contrôler Mario dans un monde en 3D, mais il faut avouer que les commandes tombent bien sous les doigts et que la manette est parfaitement adaptée au jeu. Après un petit temps d'adaptation, dans lequel on peut courir, sauter, ramper et même faire des saltos arrière, on rentre dans le château, car pour la première fois, on se retrouve dans un jeu à monde ouvert. Une fois dans celui-ci, on s'aperçoit qu'il y a des étoiles sur les portes. On se doute qu'il faudra avancer dans le jeu pour y avoir accès. Et voilà, on a trouvé une porte sans étoiles, sûrement le premier monde. En y ouvrant la porte, on y aperçoit un tableau. Et en s'approchant un peu, il se met à onduler. On se doute qu'il va falloir plonger dedans. Et zou, nous voici dans le niveau. Sympa, non? Pour l'histoire, rien de bien extraordinaire. Peach a encore disparu alors qu'elle a invité Mario à venir au château manger un bon gâteau. Parlons un peu du jeu. Alors il est constitué de différents mondes, constitué lui-même de différents objectifs à remplir pour obtenir les dites étoiles et de ce fait ouvrir de nouveaux mondes. Le fait de revenir plusieurs fois dans le même niveau donnera lieu à un level design super ingénieux et pas du tout répétitif. Très bon point. Le but du jeu est de récupérer les 120 étoiles et de pouvoir rencontrer Yoshi sur le toit du château de Peach. Graphiquement, Mario 64 est superbe. Les musiques et les bruitages sont parfaitement en adéquation, ce qui donne une certaine perfection au tout. Le contrôle de Mario est parfait également, et le fait de pouvoir gérer la caméra au doigt et à l'œil est super pratique. La difficulté est bien dosée, mais le jeu reste assez facile en soi, et ne vous donnera pas trop de mal pour le terminer. Cela dit, il sera plus ardu de le finir avec les 120 étoiles. De plus, vu la longueur de votre quête, les programmeurs ont eu le bon sens de proposer 4 sauvegardes pour vous et vos amis. Les niveaux sont divers et variés et nous font voyager du désert au pays arctique en passant par le manoir hanté. Vraiment génial. Pour conclure, on peut dire que Mario 64 passe haut la main son passage à la 3D, même s'il aura fallu attendre quasiment un an et demi sa sortie en France. Cela valait la peine car nous sommes devant un jeu magnifique à bien des égards. Allez, j'y retourne. Go est un jeu d'arcade développé par Data East en 1992, mettant en scène deux jeunes sportifs devant empêcher le docteur Duplaine d'engraisser le monde. Il se présente sous la forme d'un platformer à écran unique, similaire à Snow Bros ou Bubble Bobble. Le joueur dirige un des deux adolescents, vêtu d'un survêtement sportif, et le but est de détruire la totalité des ennemis qui composent l'écran. Pour ce faire, il va falloir utiliser une technique très rarement employée dans les jeux vidéo, nourrir les ennemis jusqu'à ce qu'ils deviennent gros comme des ballons de baudruche et les balancer contre un obstacle pour les faire éclater. Mais si les ennemis sont tous assez mignons, surtout les pingouins, ces derniers peuvent aussi vous faire avaler de la nourriture ultra calorique, vous faisant prendre du poids et ainsi perdre de la vitesse. Et un autre impact vous fera perdre l'une de vos 3 vies. Il y a aussi des pièces Data East qui apparaissent à chaque niveau, et si un joueur obtient une de ces pièces, celle-ci activera une sorte de machine à sous qui, en fonction du résultat, distribuera des bonus comme des pierres précieuses, des anneaux ou des power-up. Et si la machine affiche 3-7, un stage bonus fera son apparition où les deux gamins devront attraper des diamants, mais surtout pas de la nourriture, représentée par du poulet rôti, avec la peau bien sûr, et des nigiri sushi. Tout au long de la partie, il sera possible de choisir son niveau à partir d'une carte du monde et vous serez bien entendu confronté avec un boss qui aura souvent une thématique d'Halloween, ce qui est idéal en cette période de l'année. Vampires, pantins de bois, reines maléfiques et citrouilles géantes seront de la partie. La maniabilité est très précise, les animations sont rapides et la difficulté est très très bien dosée. Celle-ci ne vous posera guère de difficultés si vous êtes un habitué des jeux d'arcade à l'ancienne. Pour résumer, Diet Gogo est donc un excellent Bubble Bobble-like, coloré, mignon, facile à prendre en main avec des thématiques d'Halloween bien sympathiques.
Monsieur, je peux sortir ?
2 minutes.
Lynx d'Atari, c'est pour jouer où l'on veut. Enfin presque. Lynx d'Atari, ça vous dévore.
En 1986, David Morse, ancien employé de Commodore parti travailler chez l'éditeur Epix, demanda assistance à deux de ses anciens collègues, R.J. Mickle et Dave Needle, pour l'aider à réaliser un projet suggéré par son fils, une console portable. Après un an de travail, le trio finalisa un prototype fonctionnel nommé Handy. Dévoilé au Consumer Electronics Show de janvier 89, le projet semblait prometteur, mais le coût de développement était énorme et Epix faisait face à des difficultés financières. Pour que celui-ci ne tombe pas aux oubliettes, Epix avait besoin d'un partenaire, et ce sera Atari. D'un commun accord, Atari fabriquera et commercialisera la console, tandis qu'Epix développera les jeux pour ce support.
L'Inde d'Atari, un son tellement canon qu'on s'y croirait. L'Inde d'Atari, ça vous dévore.
Après quelques modifications effectuées par les ingénieurs d'Atari, la console fut rebaptisée Lynx et lancée en Amérique du Nord il y a 25 ans à quelques jours près, le 11 octobre 1989. La Lynx est alors en concurrence directe avec la Game Boy, commercialisée 3 mois plus tôt. Et pour s'imposer dans cette lutte, elle expose des arguments de poids face à la machine de Nintendo. Processeur 16 bits, écran couleur rétroéclairé, design ambidextre et rotation de l'écran pour les gauchers, possibilité de relier jusqu'à 8 consoles pour les jeux multijoueurs. Malgré ces arguments séduisants, la Lynx souffre de 2 défauts majeurs. Sa consommation de piles qui ne lui offre pas une grande autonomie et une taille imposante qui l'empêche d'être glissée dans une poche, contrairement à la Game Boy. Ces défauts plomberont les ventes et Atari sera obligé de corriger le tir. C'est ainsi que la Lynx 2 sera lancée en 1991.
Lynx d'Atari, vous branchez 4 joueurs, un seul reste vainqueur. Lynx d'Atari, ça vous dévore.
D'un format un peu plus compact, bien que plus épaisse que son aîné, la Lynx 2 se voit dotée d'un écran de meilleure qualité, d'une sortie son stéréo et un bouton pour désactiver le rétroéclairage et ainsi augmenter un peu l'autonomie. Hélas, cela ne suffira pas à booster significativement les ventes de la console et faire vaciller l'hégémonie de la Game Boy, cette dernière s'étant entre-temps dotée d'un catalogue de jeux bien plus fourni et varié. La Lynx, avec sa centaine de jeux aux titres majoritairement tirés de l'arcade, fait bien pâle figure. Finalement, Atari jettera l'éponge en 1996, après avoir tenté une ultime relance de sa console portable en même temps que la sortie de la Jaguar, mais sans succès. À la fin des années 90, la société Hasbro, alors détentrice des droits des productions Atari, autorisera officiellement le libre développement de programmes sur la Lynx, permettant ainsi à la portable de vivre une seconde fois via les productions des jeux amateurs encore fréquents de nos jours.
Lynx d'Atari, enclenchez le turbo et doublez la vitesse illico. Lynx d'Atari, ça vous dévore.